que tu as regardé par la fenêtre, tout benaise?
Je me disais qu'on est bien ici.
Ah ouais. Tu sais, moi, je me dis la même chose quand j'écoute l'agité du local.
Quand une année commence, on le sait, on aura nos grands moments où on va marquer le coup et où on va se retrouver tous ensemble pour ça. Mais je sais déjà par avance qu'il ne sera pas facile de casser le geste de trinquer ou lever le coude. Un geste si familier pour nous tous qu'il peut être intéressant de re-questionner. C'est justement ce qu'on va faire avec mon invité d'aujourd'hui, Olivier Coulanges, coordinateur de l'association Alcool Assistance de la Mayenne. On retrouvera ensuite notre tout premier reportage Pensée locale de l'année qui nous parlera de la maison radieuse de Rezé, un monument historique qui s'est transformé en habitat collectif. Un reportage réalisé par Hélène Bataille de Euradio qui s'est rendue sur place. Bonjour Olivier Coulanges, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le coordinateur départemental de l'association Alcool Assistance en Mayenne. Pour ce mois de janvier, on sort de la période des fêtes de fin d'année. C'est une période où l'alcool est presque systématiquement posé sur les tables de nos foyers. Et nous voilà maintenant en janvier, où parmi les bonnes routines à adopter pour ce premier mois de l'année, on parle justement du mois sans alcool dans l'année comme une sorte de détox. Mais je me demande si ce n'est pas aussi une manière de nous rassurer quant à notre consommation d'alcool qui reste particulièrement élevée en France. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Oui, c'est sûr que aujourd'hui, la culture veut que y a souvent de l'alcool qui est présent sur les tables. Et le janvier sobre permet de poser une réflexion sur sa consommation d'alcool, car pour beaucoup de personnes, on entend souvent le mot « je gère », car les gens banalisent leur consommation. Comme je prends une situation d'une personne qui me dit moi, à la fin de ma journée, je prends ma petite bière. Il n'y a rien de grave, mais la dépendance à l'alcool notamment, ce n'est pas forcément des grosses consommations d'alcool. On commence par des habitudes de consommation et qui deviennent un besoin.
On l'a évoqué hors antenne tout à l'heure ensemble. Il y a l'autrice Stéphanie Braquet qui a écrit un livre qui s'appelle « Jour zéro » publié aux éditions Iconoclaste en 2021. C'est une sorte de journal que l'autrice tient suite à une gueule de bois où elle commence à questionner son rapport à l'alcool et à prendre des notes. Donc elle le raconte, elle faisait partie de ces gens qui voyaient la maladie alcoolique comme par le fait de cacher des bouteilles, de consommer dès le matin son premier verre. Mais effectivement, la maladie, ça peut être ça, mais ça peut se passer bien avant ce type de consommation-là, en fait.
Oui, tout à fait, parce que on peut consommer qu'à partir d'une certaine heure de la journée, vers 17h, qui peuvent, après, qui arrive l'apéritif, vers 18-19h. Et on s'aperçoit qu'au fil des mois et des années, que l'alcool peut être présent dès le matin. Ça peut être... Il y a des métiers qui sont un peu plus propices à des consommations dès le matin que d'autres. Quand on est vraiment dans la maladie, l'alcool est vraiment présent dès le matin, voire la journée et voire la nuit aussi pour certains. Je conseille que les personnes prennent conscience de leur consommation. Il faut se déculpabiliser car moi, je ne connais personne aujourd'hui qui a pris son premier verre d'alcool pour devenir alcoolique. En général, il y a souvent une raison à ça. Donc, faut bien la cerner, cette raison. Et puis, faire appel soit à des associations, soit à des professionnels pour être aidé, mais ne jamais arrêter l'alcool comme ça, car on peut faire des crises de délirium tremens, ce qu'on appelle. Donc, il vaut mieux être aidé par un traitement médicamenteux.
Et alors justement, on va revenir sur tout ce qui peut exister sur notre territoire et sur les démarches à faire en cas de questionnement sur notre consommation d'alcool et peut-être de difficultés très claires dans notre esprit. Pour vous, quels sont les signes peut-être où on peut se dire là, peut-être que ma consommation n'est pas normale, les premiers signes que vous
Alors noteriez. Ça peut commencer pour les personnes qui consomment, qui banalisent leur consommation, comme j'évoquais tout à l'heure, avec la bière à la fin de la journée, et quand cette bière, on n'arrive pas à... on ne peut pas la consommer pour X raisons, on se sent un petit peu nerveux, irritable, un changement de comportement. Là, ça a déjà une alerte. Et puis, pour aller plus loin dans la dépendance physique, là, les signaux sont souvent des tremblements, la transpiration. La nuit, les draps sont mouillés. Ça, c'est des signaux d'alerte pour dire que oui, la maladie est là. Voilà.
Et alors, pourquoi est-ce que c'est si compliqué de questionner justement notre rapport à l'alcool dans notre société ?
Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, la consommation d'alcool a baissé énormément. Aujourd'hui, on est rendu à 11,7 litres d'alcool pur par habitant. Dans les années 70, on était à 26 litres. Donc, il y a quand même eu, grâce à des informations de communication, de la prévention, quand même une consommation qui a baissé énormément. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que l'alcool est toujours sur les tables et c'est vrai que c'est compliqué pour une personne qui souhaite arrêter sa consommation ou la baisser de s'affirmer. Et je pense qu'aujourd'hui, si on ne trouve pas l'affirmation, des fois aussi c'est pour éviter d'être exclu d'un groupe, parce que en général c'est souvent pour appartenir à un groupe, être comme tout le monde, et dès que on veut arrêter la consommation d'alcool, et ben là on a toujours ces petites réflexions, écoute, tu es malade, qu'est-ce qui t'arrive? Et donc là, si on n'a pas cette affirmation en disant non, on recommence et on n'arrive plus à s'en sortir.
Et alors tout à l'heure, avant le début de cette émission, vous m'avez dit la maladie alcoolique, c'est la maladie des émotions.
Oui, parce qu'en général, les émotions sont tellement fortes qu'on n'arrive pas à les canaliser. Et donc, on trouve un autre moyen pour les canaliser, pour nous apaiser. Et donc, ça peut être l'alcool, mais ça peut être aussi des produits illicites. Ça peut être des médicaments. Quand on est dans la maladie, on a la maladie des émotions, mais aussi on n'a plus de confiance en soi, on n'a plus d'estime, on n'ose plus se regarder dans la glace le matin.
Et alors, pour revenir à votre association et à toutes les aides existantes justement sur notre territoire, vous en avez déjà cité quelques-unes. Quand on ressent une difficulté par rapport à notre consommation d'alcool, vers qui aller en premier? Quelles sont les premières démarches à effectuer?
Alors, sur le territoire de la Mayenne, il y a des associations. Notre association Alcool Assistance, d'autres associations, les Amis de la Santé, Alcooliques Anonymes, mais également les professionnels, le XAPA, qui aussi accompagne les personnes en difficulté avec une addiction.
Et il y a également la clinique de la Brionnière sur notre territoire.
Oui, tout à fait. Les patients peuvent rentrer soit pour 15 jours, soit pour 5 semaines, soit pour jusqu'à 11 semaines, et voir aussi après s'ils sont encore... se sentent un peu... Ça peut être compliqué de rentrer chez eux, qu'ils ne se sentent pas prêts. Il y a de l'HDJ, l'hôpital de jour, qui existe à durée indéterminée, en fait. Donc, nous, en Mayenne, on propose des espaces de parole dans le département. On en a plusieurs dans le département. Et aussi, on fait des groupes entourage, pour que la personne accompagnant le malade puisse venir parler comment accompagner un malade et venir en parler dans ses réunions.
Important aussi de comprendre que dans l'entourage, on a aussi besoin de soutien. Justement, par rapport à l'entourage, vous qui êtes impliqué dans cette association, qu'est-ce qui vous semble peut-être important de dire, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, aux proches qui se sentiraient totalement démunis face à une dépendance de l'un de ses proches?
De garder l'espoir. Toujours de revaloriser le malade, le déculpabiliser, qu'il puisse mettre des mots derrière ça, son mal-être en fait, et l'accompagner dans Chaudy, dans des structures de soins, dans des associations, toujours être avec lui, l'encourager et jamais le dévaloriser, c'est surtout important, toujours le revaloriser.
Être très à l'écoute. Voilà. Parmi les chiffres en France, on remarque qu'il y a une augmentation dans la consommation chez les femmes, mais c'est une consommation qui est différente, qui est peut-être moins visible, qui est plus solitaire.
Oui. Alors depuis un certain, à peu près, on va dire, 6 mois, il y a énormément maintenant de femmes qui rencontrent une addiction. Mais ils ont des modes de consommation différents que les hommes, c'est-à-dire que c'est plus des consommations cycliques. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont être pendant peut-être 8-15 jours à ne pas boire une goutte d'alcool. Et pour X raisons, les émotions qui reprennent le dessus, donc ça peut être la colère, la tristesse, l'euphorie aussi, qui peut être aussi des fois aussi une origine. Voilà, une origine. Et donc quand en général les femmes reprennent le verre, en général ils vont vraiment jusqu'à être conscientes et se mettre dans un état vraiment catastrophique. Dans la maladie, on est tous différents.
Il y a différentes méthodes pour se faire accompagner. Il y a l'arrêt total. Certains arrivent à peut-être juste réduire. Où est-ce que nous, on peut vous contacter peut-être pour, si on a des questions, besoin d'informations, où est-ce qu'on vous retrouve?
Oui, alors donc, il y a nombre d'années, dans nos associations, c'est vrai que la personne, quand elle osait pousser la porte, on parlait vraiment que d'abstinence. C'est-à-dire plus une goutte d'alcool. Aujourd'hui, on travaille la RDR, donc la réduction des risques. Donc, c'est-à-dire accompagner un malade, mais qui ne souhaite pas arrêter l'alcool totalement. Donc, ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas l'accompagner. On va l'accompagner, on va lui demander qu'est-ce qu'il souhaite, lui. Réduire sa consommation, ça peut être l'apéritif du midi, mettons, qui garde l'apéritif du soir. Enfin, je prends des exemples. Et qu'il se rend compte qu'en fait... que c'est en fait pas possible, ça dure un laps de temps, et là il se dit il va falloir vraiment que je suis abstinent. Hein, parce qu'il y a deux dépendances, il y a la dépendance, on commence par la dépendance psychologique, donc des habitudes, là, comme je vous disais tout à l'heure, la bière après le travail, l'apéritif du soir, et puis qui peuvent devenir ensuite, par la suite, pour des X raisons. Ça peut être privé ou professionnel, justement de la colère, les émotions. Et là, ça a des alcoolisations qui deviennent plus concentrées, plus fréquentes. Et là, on rentre dans la dépendance physique. Et là, on rentre dans la maladie. Et là, quand on est dans la dépendance physique, pour revenir à une consommation de plaisir, qu'on appelle, c'est quasiment impossible. Par contre, la personne qui en prend conscience par des habitudes de consommation qui n'est pas encore dans la maladie peut revenir à une consommation de plaisir en travaillant tout le côté psychologique, soit avec un psychologue, soit en espace de parole, il y a plusieurs solutions.
Et donc, pour terminer, il est important de rappeler qu'il faut avoir conscience qu'en fait, le traitement de cette maladie prend du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain.
Oui, voilà. Donc, c'est vrai que l'entourage, quand il accompagne un malade, faut qu'il respecte son rythme. Parce que c'est vrai, ce qui se joue, c'est souvent le côté affectif, ce qui est normal. Hein. Donc, quand la personne veut se faire soigner, l'entourage, elle, veut qu'il se soigne et qu'il s'en sorte très très rapidement. Mais parfois, il faut attendre quelques années pour certains. D'autres, en quelques mois, ça peut être très vite réglé, mais d'autres, il faut plus de temps.
Et donc, où est-ce qu'on peut vous contacter? Peut-être si on a besoin de plus d'informations, si on a besoin juste d'entrer en contact avec vous, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Un numéro de téléphone, une adresse?
Alors, on a notre siège qui est basé sur Laval, 51 rue Avoise-de-Cran, dans le quartier de Sainte-Catherine. Donc, il y a des permanences ouvertes de 14h à 17h du lundi au vendredi. On a un site internet aussi, Alcool Assistance 53. Et autrement, on peut me joindre au 06 84 84 33 51. Voilà.
Merci Olivier, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Ben merci à vous de votre invitation.
Dans quelques instants, on fait un tour des actualités locales. Mais d'abord, le duo belge Colt nous embarque. Avec eux, prenons de l'élan, puisqu'on va, à nos risques et périls, séduire le chaos.
On n'est pas loin d'un désaccord, je préfère les remords plutôt qu'un vrai corps à corps. Je fais partie de ces gens sans effort qui préfèrent courir que l'ego, qui préfèrent mourir pour les autres, qui espèrent qu'on vive tous égaux, mais qui ont subi tous les torts, piétinés par tous les plus gros, ayant pour seule arme les mots, mais n'auront jamais les propos pour changer un fusil d'épaule. Moi, j'ai besoin de réconfort, j'ai besoin d'une âme tranquille. Comment vivre en restant fort? Pourquoi c'est si difficile? J'ai besoin de réconfort, j'ai besoin d'une âme tranquille. Comment vivre en restant fort? J'ai séduit le chaos, chaos, chaos. J'ai perdu le contrôle contre les autres. J'ai séduit le chaos, chaos, chaos. J'ai perdu le contrôle. J'ai perdu mon regard, brouillé par l'orage. Moi, je peux toujours apercevoir une lueur dans les nuages. Ah, j'ai séduit le chaos, chaos, chaos. J'ai perdu le contrôle contre les autres. Mais moi, j'ai besoin de réconfort, j'ai besoin d'une âme tranquille. Comment vivre en restant fort? Pourquoi c'est si difficile? J'ai besoin de réconfort, j'ai besoin d'une âme tranquille. Comment vivre en restant fort? Pourquoi c'est si difficile? J'ai grandi sans savoir pourquoi, j'ai jamais décidé pour moi. J'ai fait qu'entasser plus de poids sur un corps toujours plus étroit. Brisé par les tonnes de regrets, attiré par les pires extrêmes, rongé par tous ceux qui m'effraient. J'ai sombré au plus bas, le chaos m'a ouvert ses bras. Je t'avais prévenu que j'irais mal, je t'avais prévenu que j'irais mal. Mais j'ai retenu tes paroles, besoin du pire pour le réveil. Besoin du pire pour le réveil, besoin du pire pour le réveil. Besoin du pire pour le chaos, chaos, chaos. J'ai perdu le contrôle contre les autres. Oh, j'ai séduit le chaos, chaos, chaos. J'ai perdu le contrôle contre les autres. Ici j'ai perdu mon regard, brouillé par l'orage. Moi je peux toujours apercevoir. Tranquille, comment vivre en restant fort? Pourquoi c'est si difficile? J'ai besoin de réconfort, j'ai besoin d'une âme tranquille. Comment vivre en restant fort? Pourquoi c'est si difficile?
Allez, c'est parti pour l'actu en bref. On commence avec l'arrivée de la vague de froid ces derniers jours. 20 places supplémentaires ont été ouvertes à l'hébergement d'urgence, la halte de nuit. À Laval, ces places temporaires se sont ouvertes suite à l'activation de la préfecture de la veille sociale renforcée. Et puis le Festival du journalisme sportif à Laval revient cette année le 31 janvier et le 1er février. Pendant 2 jours, journalistes, consultants et dirigeants seront présents pour débattre et échanger avec le public. Le festival est organisé par Jean-Christophe Boyer, ancien maire de Laval et passionné de sport, en association avec le journaliste de L'Équipe et président de l'Union des journalistes de sport en France, Vincent Duluc. Au programme de l'événement, une masterclass, 5 tables rondes, 2 soirées de projection, 2 expositions et 40 intervenants. L'entrée du festival est gratuite mais sur réservation. Les inscriptions sont ouvertes sur le site du festival, festivaljs.fr. Ce mardi 9 janvier, la Cour d'appel d'Angers a relaxé l'ancien élu municipal banni du Front National en 2015, Jean-Christophe Gruau, dans l'affaire qui l'oppose à Bruno Berthier, premier adjoint au maire de Laval, pour injures homophobes suite à plusieurs publications sur les réseaux sociaux. Il y a presque un an, il avait été condamné en première instance à 6 mois de prison avec sursis. Et pour terminer, ne manquez pas la projection ce samedi du film Le Dernier Combat des Gueules Bleues, un film réalisé par Nicolas Jallot, natif de la commune. Le film revient sur l'industrie ardoisière qui a atteint son apogée au XXe siècle lorsque l'Anjou est devenu le premier producteur d'ardoises mondial. On revient sur les conditions de travail extrêmes des ardoisiers mineurs qui tombaient malades et mouraient jeunes de la silicose. Le film raconte leur nouveau combat, celui de la reconnaissance de leur maladie professionnelle. Le Dernier Combat des Gueules Bleues est à découvrir en avant-première au cinéma Le Vox à Renazé. Oui, vous avez eu froid encore ce matin en sortant de chez vous. Les températures sont malgré tout remontées. On remarque entre 3 et 5 degrés sur l'ensemble du département. L'après-midi, demain matin, par contre, ne vous fiez pas au soleil à travers votre fenêtre puisqu'on ne monte pas au-dessus de 3 degrés. L'après-midi, on remarquera quelques nuages et 2 ou 3 degrés supplémentaires au thermomètre. Et oui, Karim, fidèle auditeur de l'agité du local, tu ne te réjouis pas de ce qui nous attend. Paraît-il qu'on va vers le mieux la semaine prochaine, on vous tiendra au courant. Du monument historique à l'habitat collectif construit en 1953 et 1955, la maison radieuse de Rezé est la seconde des 5 unités d'habitation réalisées par Le Corbusier. Dans ce village vertical, il y a 294 appartements, dont 55% de logements sociaux pour environ 750 habitants. L'habitat collectif imaginé par Le Corbusier est propice à la vie associative. À Rezé, l'association des habitants de la maison radieuse propose de nombreuses activités pour celles et ceux qui y habitent. Un club de couture, de jardinage ou de sérigraphie, la tritou pour valoriser les objets de seconde main ou encore une librairie. Sur le toit, il y a une école et dans le hall, le mercredi, vous pourrez faire votre marché. Le Corbu n'est pas qu'un monument historique, c'est un lieu de vie. Hélène Bataille de E-Radio est allée à la rencontre des habitants et habitantes de la maison radieuse de Rezé. Écoutez.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
À Rezé, au sud de l'agglomération nantaise, se trouve la Maison Radieuse. Construite entre 1953 et 1955, elle est la seconde des 5 unités d'habitation réalisées par Le Corbusier. Florian Riffet est médiateur culturel de la ville de Rezé.
Pour définir la Maison Radieuse, on peut peut-être partir du concept de l'architecte, qui est donc Le Corbusier. Le Corbusier va parler d'une unité d'habitation, qui est donc une sorte de grand ensemble conçu pour du logement à grande échelle, mais qui intègre aussi beaucoup d'équipements collectifs, des services communs, pour faciliter une vie, un vivre ensemble. On compare souvent les unités d'habitation de Le Corbusier à des villages verticaux. Je crois que c'est peut-être le meilleur résumé de la maison radieuse.
Un village vertical. En effet, si la maison radieuse est classée monument historique depuis 2002, elle n'a rien d'un musée aux œuvres figées. Au Corbu, comme l'appellent les habitants, il y a 294 logements, dont 55% de logements sociaux et environ 750 habitants. Une école sur le toit, une librairie et une multiplicité d'activités associatives participent à la vie de ce monument historique. Floris fait partie de la direction de l'association des habitants de la Maison Radieuse.
Alors, la vie associative, elle est organisée donc autour de l'association des habitants et des habitantes de la Maison Radieuse. C'est une organisation qui a pour but de favoriser le vivre ensemble au sein de notre immeuble. Et depuis 2 ans et demi maintenant, notre intention, c'est de créer un lien durable entre les habitants et leur lieu de vie.
En plus des temps forts traditionnels comme la fête de l'été, la fête des enfants ou encore la journée du patrimoine, l'association organise de multiples activités.
On coordonne des activités soit hebdomadaires, soit plus ponctuelles autour de clubs qui ont des activités diverses, comme alors de manière hebdo, une bibliothèque, une fripe, une ressourcerie, qu'on appelle le tritou, et puis des activités un petit peu plus ponctuelles, comme sérigraphie, couture, bricolage, jardin. Voilà, et ce sont des activités qui nous permettent aussi de nous rencontrer et puis de créer ensemble.
mercredi soir, dans le hall du Corbu, les habitants peuvent même faire leurs courses au marché. Martine Vitu est l'une des plus anciennes habitantes de la Maison Radieuse.
Alors les marchés, on a une convention avec la copropriété, donc on a 3 emplacements pour des questions de sécurité, pour que la circulation puisse se maintenir dans le hall. Et donc toutes les semaines, on a le marchand de légumes et la boulangère. Et puis on a un troisième emplacement où il y a une rotation. Et bon, ben, vous voyez, il y a quand même pas mal de monde. Et il y a des fois où il y a encore plus de monde. Hein, mais oui, mais il y a 700 habitants dans l'immeuble. Hein, donc c'est le village. Hein,
Un village où les habitants se côtoient quotidiennement au sein des espaces communs ou des associations. Si cette proximité peut faire peur à certains, elle est pour d'autres une des raisons de rester au Corbu.
Je suis étrangère et d'une certaine manière, la vie associative, c'est devenu une seconde famille par défaut de ne pas avoir sa famille juste à côté. Et du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup participé et porté des projets. Et ça fait partie des choses qui nous ont portées dans la vie, enfin, qu'on y est encore.
Contrairement à la cité radieuse de Marseille, présentée comme un bijou architectural, la maison radieuse de Rezé semble moins connue du grand public. Elle se différencie notamment par son parc de logements sociaux et la présence de nombreuses activités associatives. Un mode de vie en mixité et proximité.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Vous écoutez la JT du local sur l'autre radio et avant de terminer ce moment passé ensemble, j'ai envie de vous faire découvrir cet artiste Flavien Berger et son titre « M'a dit la nuit ». Vous pourrez le découvrir sur la scène du 6x4 le 25 janvier. Lucie vous en reparlera très prochainement. Écoutez.
C'est de la pyrotechnie.
Nous voilà arrivés à la fin de cette émission, mais restez à l'écoute de l'autre radio puisqu'à 19h, on écoute le masque et la tronçonneuse qui, il semblerait, veulent nous rappeler d'aller en salle pour cette nouvelle année 2024. L'émission est suivie à 21h de Quand la musique est bof, qui fait un focus sur le film Broken Flowers, réalisé par Jim Jarmusch et sorti en 2005. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour la dernière agitée de la semaine. Gardez vos mains au chaud, réchauffez vos cœurs sur nos ondes et en attendant, faites-le bien.
Bon ben Mimi, on dirait que c'est fini.